Cinquième considération. La cinquième et dernière considération doit être faite sur certaines apparitions, révélations et miracles que Dieu permit, après la mort de saint François, pour confirmer la vérité de ses sacrés et saints stigmates et faire connaître le jour et l'heure où il les avait reçus. On savait qu'un religieux, nommé Matthieu de Castiglione Aretino, avait eu révélation de ces choses. En l'an 1282, dans le mois d'octobre, sur l'ordre de frère Jean Bonnegrâce, frère Philippe enjoignit à ce religieux, au nom de la sainte obéissance, de lui déclarer ce qu'il connaissait à ce sujet. Frère Matthieu était un homme d'une grande piété et d'une haute sainteté. Se voyant forcé par la sainte obéissance, il répondit : J'habitais l'Arverne l'an passé, dans le mois de mai, quand un jour je me mis en prière dans la cellule où l'on croit que se fit l'apparition séraphique, et je suppliais Dieu avec ferveur qu'il daignât révéler à quelqu'un le jour, l'heure et l'endroit où saint François avait reçu les sacrés stigmates. J'avais persévéré dans cette prière jusque bien avant dans la nuit, quand tout à coup, le saint lui-même m'apparut environné d'une lumière éblouissante et me dit : Mon fils, que désires-tu ? Père, lui répondis-je, je demande à Dieu le jour, l'heure et l'endroit où vous reçûtes vos glorieux stigmates. Le saint reprit : Je suis François, ton père. Me reconnais-tu ? Oui, père, je vous reconnais. Alors, il me montra les plaies sacrées des pieds, des mains et du côté, en me disant : Le temps est venu où Dieu veut que pour sa gloire soient manifestées les choses dont mes frères ont négligé de s'enquérir jusqu'à présent. Sache donc que celui qui m'apparut ne fut pas un ange, mais Jésus-Christ lui-même sous la forme d'un séraphin. C'est lui qui, de ses propres mains, a imprimé sur mon corps ses plaies sacrées, comme il les reçut dans sa passion. Et voici comment s'opéra ce prodige. La veille de l'exaltation de la Sainte Croix, qui, cette année, tombait un vendredi, je sortis de ma cellule dans une grande ferveur d'esprit, et j'allais me mettre en oraison, à l'endroit même où tu te trouves maintenant, et où j'avais coutume de prier. Soudain, descendit des cieux avec impétuosité un jeune homme crucifié sous la forme d'un séraphin qui avait 6 ailes. À cette vue, je me prosternai, l'esprit religieusement occupé de l'amour infini de Jésus-Christ dans sa passion et de son immense douleur. Et je demeurai touché d'une si vive compassion qu'il me semblait éprouver dans mon corps les douleurs du Sauveur en croix. Au moment de l'apparition divine, toute la montagne devint brillante comme le soleil. Alors le Christ descendit vers moi et me communiqua des paroles secrètes que je n'ai encore révélées à personne. Mais le temps approche où elles seront connues. Après cela, le Sauveur remonta vers les cieux, et moi, je me vis avec les stigmates que je porte encore maintenant. Va donc, ajouta saint François, assure ton ministre de la vérité de ce que tu viens d'entendre, car c'est ici l'œuvre de Dieu, et l'homme n'y a pas de part. À ces mots, le saint me bénit et retourna vers le ciel, accompagné d'une escorte de jeunes gens tout resplendissants. Voilà le rapport que fit frère Matthieu. Il assura de plus avoir vu cette apparition dans un moment où il était entièrement éveillé. Et plus tard, il jura qu'il l'avait raconté dans sa cellule sur la demande qu'il lui en avait faite par la sainte obéissance. Comment un saint frère, après avoir lu dans la légende de saint François le chapitre des sacrés et saints stigmates, pria Dieu avec tant de ferveur de lui faire connaître les paroles secrètes du séraphin, que le saint vint enfin les lui révéler lui-même. Une autre fois, un pieux et saint frère lisant, dans la légende de saint François, le chapitre de sacrés et saints stigmates, se mit à penser, avec une grande anxiété d'esprit, quelles pouvaient être ces paroles secrètes que le saint avait entendues de la bouche du séraphin et qu'il n'avait jamais voulu répéter à personne pendant sa vie. Il se dit alors en lui-même : Saint François a refusé de faire connaître ses paroles pendant qu'il vivait. Mais maintenant qu'il est mort, peut-être les révélerait-il, si on l'en sollicitait avec ferveur. Et dès lors, il se mit à prier Dieu et le bienheureux François qu'il leur plût de faire cette révélation. Enfin, voici comment il fut exaucé. après avoir persévéré 8 ans dans sa demande. Un jour, qu'après le repas, il avait récité les grâces dans l'église, il s'y retira seul à l'écart et se mit en prière. Il implorait Dieu et saint François avec des larmes et avec plus de ferveur encore qu'à l'ordinaire. Mais en ce moment, un frère vient l'appeler et lui commande de la part du gardien de l'accompagner à la ville pour quelque affaire du couvent. Le pieux frère, ne doutant pas que l'obéissance ne fût plus méritoire devant Dieu que la prière, obéit aussitôt et suivit le frère qui le lui demandait. Alors, pour l'en récompenser, Dieu lui accorda ce que de longues années de prière n'avaient pas encore pu lui obtenir. Au moment où les deux frères sortaient du couvent, ils rencontrèrent deux religieux étrangers qui paraissaient venir de loin. L'un d'eux était jeune encore, l'autre âgé et maigre. Et tous deux étaient mouillés et couverts de boue. Touché de compassion à la vue de ces voyageurs, l'obéissant frère dit à son compagnon: Frère bien-aimé, si l'affaire pour laquelle nous sortons pouvait se remettre un peu, vous voyez que ces étrangers ont besoin d'une charitable réception. Je vous prierai donc de me permettre d'aller d'abord au couvent pour leur laver les pieds. Je les laverai à ce frère âgé, qui en a plus grand besoin, et vous rendriez le même service au jeune frère, et nous repartirions ensuite pour nos affaires. Le frère consentit à la bienveillante proposition de son compagnon. Tous deux rentrèrent aussitôt, reçurent charitablement les étrangers et les conduisirent aussitôt à la cuisine, près du feu, afin qu'ils pussent s'y réchauffer et se sécher. 8 frères se trouvaient alors autour du foyer. Lorsque les voyageurs se furent un peu réchauffés, les 2 frères, selon qu'ils en étaient convenus, les tirèrent à part pour leur laver les pieds. Au moment où le pieux et obéissant frère lavait ceux du vieillard et retirait la boue dont ils étaient couverts, tout à coup, il voit les sacrés et saints stigmates. Aussitôt, plein d'étonnement et de joie, il les embrasse affectueusement et s'écrie: Oui, ou bien vous êtes Jésus-Christ lui-même, ou vous êtes saint François. À ces paroles, les frères qui étaient autour du foyer se lèvent précipitamment, accourte et contemple avec un respect mêlé de frayeur ses plaies à jamais glorieuses. Le vieillard, cédant à leurs prières, leur permet de les examiner, de les toucher et de les baiser. Et les voyant au comble de l'étonnement et de la joie, il leur dit: « Ne doutez pas et ne craignez pas. Je suis votre père saint François, celui à qui Dieu a donné de fonder les 3 ordres. Il y a 8 ans que ce frère, qui me lave les pieds, me prie de lui révéler les paroles secrètes que le séraphin m'a dites au moment où il me donna les stigmates et que je n'ai jamais voulu répéter pendant ma vie. Aujourd'hui, en particulier, il m'en a prié avec plus de ferveur que jamais. Et maintenant, pour le récompenser de sa persévérance et de l'obéissance dont il a fait preuve, en quittant les douceurs de la contemplation, Dieu m'envoie lui révéler en votre présence ce qu'il désire connaître. » À ces mots, saint François, se tournant vers ce frère, lui dit: « Sache donc, mon très cher frère, que me trouvant sur la montagne de l'Arverne, entièrement absorbé dans le souvenir de la passion du Sauveur, lui-même vient imprimer sur mon corps les stigmates que je porte. » Et il me dit: « Pour que tu sois mon gonfalonier, je t'ai donné les stigmates qui sont les marques de ma passion. Et de même que, le jour de ma mort, je suis descendu aux limbes, et qu'en vertu de mes plaies, j'en ai retiré toutes les âmes qui s'y trouvaient pour les conduire ensuite au paradis. Quand tu auras quitté la terre, tous les ans, le jour de l'anniversaire de ta mort, je t'accorde aussi de pouvoir descendre au purgatoire, et par la vertu de tes stigmates, d'en retirer toutes les âmes de tes 3 ordres, des mineurs, des sœurs et des continents, et même de tous les autres qui auront eu pour toi une grande dévotion, et que tu trouveras dans ce lieu d'expiation. Tu les introduiras toi-même au paradis. » Voilà les paroles que je n'ai jamais voulu répéter pendant ma vie. À ces mots, saint François et son compagnon disparurent. Dans la suite, les 8 frères racontèrent à un grand nombre de leurs compagnons l'apparition dont ils avaient été témoins et la révélation qui avait été faite en leur présence. Comment saint François, après sa mort, apparut à frère Jean de l'Arverne au moment où il était en prière. Saint François apparut un jour, sur la sainte montagne, à frère Jean de l'Arverne, homme d'une grande sainteté, au moment où il était en prière, et il s'entretint longtemps avec lui. Lorsqu'il fut sur le point de le quitter, il lui dit: Que désires-tu de moi maintenant? Parle, je suis prêt à tout accorder. Père, dit frère Jean, il y a longtemps que je souhaite savoir ce que vous faisiez et l'endroit où vous vous trouviez lorsque le séraphin vous apparut, si vous daignez me faire connaître ces choses. Saint François lui répondit. Je priais à l'endroit même où s'élève maintenant la chapelle du comte Simon de Batifolle, et je demandais deux grâces à mon Seigneur Jésus-Christ, celle de ressentir autant qu'il était possible pendant ma vie, dans mon âme et dans mon corps, la douleur qu'il avait éprouvée lui-même au moment de la Passion, et celle de ressentir aussi, dans mon cœur, cet amour excessif dont il était embrasé et qu'il avait porté à souffrir volontiers pour l'expiation de nos péchés, tant d'horribles tourments. En ce moment, Dieu me fit connaître qu'il m'accordait d'éprouver l'une et l'autre autant que le pouvait une créature, et cette promesse fut en effet accomplie par l'impression des stigmates que je reçus bientôt. Frère Jean demanda ensuite au saint si les paroles secrètes du séraphin étaient véritablement celles que rapportait le frère dont nous avons parlé et qui disait les avoir entendues de sa propre bouche, lui et 8 de ses compagnons. Saint François répondit que ce frère avait dit la vérité. Enhardi alors par sa condescendance, le frère prit encore la liberté de lui dire « Ô Père, je vous en prie, laissez-moi voir et baiser vos sacrés et glorieux stigmates. Ce n'est pas que je doute de leur réalité. Je ne vous demande pas cette faveur pour ma consolation, car c'est un désir que j'ai toujours éprouvé. » Le saint consentit avec bonté à satisfaire le frère et lui présenta familièrement ses plaies à baiser. « Père, quelle fut la consolation qu'éprouva votre âme lorsque vous vîtes le Christ, à jamais béni, descendre vers vous et vous donner les marques de sa très sainte passion. Oh, si Dieu daignait m'en faire ressentir quelque chose. Vois-tu ces clous ? Lui demanda saint François. Oui, père, répondit frère Jean. Eh bien, reprit le saint, touche encore une fois celui qui se trouve dans cette main. Le frère y porta les doigts avec une respectueuse crainte, et aussitôt, une odeur suave s'en échappa. C'était comme un nuage d'encens qui, le pénétrant tout entier, remplissait son âme et son corps d'une telle douceur qu'il se sentait ravi en extase et devint comme insensible. Il demeura dans cet état depuis l'heure de tierce jusqu'à vêpres. Frère Jean ne raconta d'abord qu'à son confesseur cette vision et l'entretien familier qu'il avait eu avec saint François. Ce ne fut qu'au moment de sa mort qu'il en fit part à plusieurs de ses compagnons. Du saint frère qui reconnut dans une étonnante vision un de ses compagnons mort quelque temps auparavant. Un pieux et saint frère de la province de Rome eut un jour l'étonnante vision que nous allons raconter. On venait d'inhumer, à l'entrée du chapitre, un de ses plus chers compagnons mort la nuit précédente. Le jour des obsèques, après dîner, au moment où les frères étaient allés prendre leur repos, il se retira dans un coin du chapitre et pria Dieu et saint François avec des larmes pour l'âme de son ami défunt. Soudain, un bruit se fait entendre dans le cloître. Le frère regarde avec effroi vers la tombe de son compagnon. Il aperçoit, à l'entrée du chapitre, saint François et derrière lui une multitude de frères rangés autour du tombeau. Il examine plus attentivement et il voit au milieu du cloître une grande flamme et au milieu de cette flamme l'âme de son ami défunt. Enfin, il aperçoit Jésus-Christ, suivi d'une nombreuse troupe d'anges et de saints qui tournaient autour du cloître. Il regardait, et son âme était frappée de stupeur. Bientôt il voit le Christ passer près du chapitre, et aussitôt saint François tomber à genoux avec ses frères en s'écriant « Je vous en prie, ô mon très cher Père et Seigneur, par cette infinie charité que vous avez témoignée pour les hommes dans votre incarnation, ayez pitié de l'âme de mon pauvre frère qui brûle dans cette flamme. » Le Christ passa et ne répondit pas. Une seconde fois, il revint près du chapitre, et saint François de tomber à genoux de nouveau devant lui, avec ses frères, et de lui dire « Ô mon miséricordieux Père et Seigneur, je vous en prie, par cette infinie charité que vous avez témoignée pour les hommes en mourant sur le bois de la croix, ayez pitié de l'âme de mon pauvre frère. » Le Christ passa et ne répondit point. Enfin, une troisième fois, il se trouve près du chapitre. Alors saint François, se prosternant encore, lui montre ses pieds, ses mains et son côté, et lui dit « Seigneur, Père miséricordieux, je vous en conjure par cette vive douleur et cette ineffable consolation que j'ai éprouvée lorsque vous avez imprimé ces sacrés stigmates sur mon corps. Ayez pitié de l'âme de mon pauvre frère qui brûle dans les flammes du purgatoire. » Ô prodige ! À peine le saint eut-il fait cette prière qu'aussitôt Jésus-Christ s'arrête, regarde ses stigmates et lui dit « C'est en vertu de tes mérites, François, que je t'accorde l'âme de ton frère. » C'est ainsi que Dieu voulut honorer les glorieuses plaies du séraphique François et lui montrer que, selon la promesse qu'il avait reçue du Christ sur l'Arverne, il n'y avait pas de moyen plus efficace pour délivrer du purgatoire les âmes de ses frères et les conduire au ciel que la vertu de ses saints et sacrés stigmates. À peine le Christ eut-il répondu, qu'aussitôt le feu du cloître disparut, l'âme du défunt alla rejoindre saint François et se réunissant au Sauveur, l'escorte bienheureuse, à la suite de son roi triomphant, retourna vers les cieux. Le frère ressentit une grande joie de la délivrance de son ami et du bonheur dont il jouissait. Il fit à ses compagnons le récit de la vision qu'il en avait eue, et tous ensemble rendirent à Dieu louange et remerciement. Comment un noble chevalier fut assuré de la mort et des sacrés et saints stigmates de saint François, pour lequel il avait une grande dévotion. Un noble chevalier de Massa de Saint-Pierre, nommé Landolphe, qui avait une grande dévotion pour saint François, fut assuré de sa mort et de ses glorieux stigmates de la manière que nous allons raconter. Au moment où le saint était sur le point de mourir, le démon prit possession d'une femme de Castello et la tourmenta cruellement. Il la faisait parler avec tant de subtilité que les savants et les hommes de lettres qui venaient disputer avec elle étaient toujours vaincus par ses raisonnements. Il la quitta pendant 2 jours, mais ce ne fut que pour revenir la torturer ensuite avec plus de violence que jamais. Landolphe, ayant entendu parler de cette femme, alla la trouver et demanda au démon ce qu'il l'avait engagé à se retirer d'elle pour la tourmenter ensuite plus cruellement. « Quand je l'abandonnais, répondit l'esprit mauvais, c'est que moi et ceux des miens qui se trouvent dans cette contrée, nous avions réuni tous nos efforts à l'occasion de la mort du mendiant François. Nous voulions lui disputer son âme et nous en emparer. Mais elle était environnée et protégée par une multitude d'anges qui nous surpassaient de beaucoup et qui la conduisirent droit au ciel. Nous avons donc été forcés de nous retirer tout confus. Et c'est pourquoi je me dédommage maintenant du repos que j'avais accordé pendant 2 jours à cette misérable. » Alors Landolphe somma le démon de la part de Dieu de lui dire en vérité ce qui en était de la sainteté de saint François, qu'il disait mort, et de celle de sainte Claire, qui était encore en vie. « Que je le veuille ou non, répondit l'esprit infernal, il faut bien que je dise la vérité. Écoute donc. » Les péchés du monde avaient tellement excité la colère du Très-Haut qu'il semblait que bientôt il allait prononcer contre tous les hommes la sentence définitive et les exterminer s'ils ne se hâtaient pas de faire pénitence. Mais alors le Christ intercéda pour les pécheurs et promit à son Père de renouveler sa vie et sa passion dans un homme, qui fut François le pauvre et le mendiant. Il lui représenta que cet homme, par sa doctrine et ses exemples, ramènerait une multitude d'âmes dans les voies de la vérité et de la pénitence. Et puis, pour montrer au monde ce qu'il avait produit en saint François, le Christ voulut que les stigmates de sa passion, dont il l'avait honoré pendant sa vie, puissent être vus et touchés, à sa mort, par un grand nombre de personnes. De son côté, la mère du Christ promit aussi de renouveler sa pureté virginale et son humilité dans une femme qui fut sœur Claire, cette vierge dont les exemples devaient arracher encore tant de milliers d'âmes de nos mains. C'est ainsi que la colère de Dieu le Père s'apaisa et qu'il ajourna la sentence définitive qu'il était prêt à porter. Voulant s'assurer si le démon, ce père du mensonge, lui avait dit la vérité, surtout en ce qui concernait la mort de saint François, Landolphe envoya à sainte Marie des Anges un de ses fidèles serviteurs, avec ordre de prendre les plus exactes informations sur ce qu'il désirait connaître. Lorsqu'il fut à Assise, le messager reconnut la vérité de tout ce que son maître avait appris. Il lui rapporta que saint François était vraiment mort au jour et à l'heure précise que le démon lui avait indiqué. Comment le pape Grégoire IX fut assuré de la réalité des stigmates de saint François, sur lesquels il avait eu quelques doutes auparavant. Laissant maintenant de côté les autres miracles des sacrés et saints stigmates de saint François, qui se trouvent rapportés dans sa légende, nous terminerons cette considération en disant que le pape Grégoire IX avait cependant encore quelques doutes sur la plaie du côté, comme il la voit lui-même dans la suite. Or, une nuit, le saint lui apparut et la lui découvrit, en soulevant un peu le bras. Puis il lui demanda une fiole, la lui fit placer sous la plaie, et il semblait au pape qu'un sang mêlé d'eau s'en échappait, et que la fiole en était toute remplie. Dès lors, il ne lui resta plus aucun doute. Plus tard, de l'avis de tous les cardinaux, il approuva solennellement la dévotion au sacré stigmate de saint François et donna une bulle qui confirmait les frères mineurs dans les privilèges qu'il leur avait accordés à ce sujet. Il délivra cette bulle à Viterbe, dans la 11e année de son pontificat, et l'année suivante, il en rendit une autre plus avantageuse encore. Après lui, les papes Nicolas III et Alexandre V accordèrent aussi à l'ordre de saint François de grands privilèges, en vertu desquels on pouvait traiter comme hérétique tous ceux qui nieraient la réalité des sacrés stigmates de son bienheureux instituteur. Voilà ce qui regarde la cinquième considération des glorieuses plaies de notre père saint François. Dieu nous fasse la grâce de l'imiter ici-bas et de mériter, par la vertu de ses saints et sacrés stigmates, de partager un jour avec lui la gloire du paradis. À la louange de Jésus-Christ et du petit pauvre Père François. Amen.